habité léger, mobile et légitime.
Ah, reçu du courrier, bien sûr. Non, on parlera de ce qui se passe. Je vais l'écrire. Alors, devant moi, il y a une feuille avec des mots, présentation du lieu, habitat mobile, milieu rural, terrain privé, hein, procédure, tout ça. On a trois personnes autour de moi.
Du coup, moi, c'est Romain. J'habite un habitat léger et aussi mobile quand je bouge. J'ai un peu j'ai deux petits habitants, hein, qui est plus collectif. Et voilà, membre de l'association ALEM depuis maintenant, de manière plus active depuis un an et demi, et sinon sympathisant depuis de nombreuses années.
Alors moi c'est Andine, j'habite dans un habitat mobile et léger aussi, et ben, on est chez moi là. Et ben, je suis rapprochée d'ALEM aussi suite à une procédure aussi, voilà, et puis j'ai très envie de défendre ce genre d'habitat, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres, donc je trouve ça important ce qu'ils font à ALEM, voilà.
Alors moi c'est Mathieu, j'ai vécu en yourte pendant un an presque, dans une des communes du Tarn assez proche. Là maintenant j'ai dû me resédentariser et j'ai rejoint ALEM il y a à peu près un an et demi également, et on a recréé ce tissu et ce collectif, ce cercle qui est là pour défendre l'habitat léger et l'habitat réversible face à une oppression policière assez forte. Donc moi je l'ai rejoint justement par peur de me faire virer du jour au lendemain, tous les matins, c'était vraiment ça, donc voilà, on a pu faire un réseau de défense citoyen à ce propos-là et en connaître un peu plus grâce à ALEM.
Qui faisait des cabanes en bois dans les bois quand il était petit ou quand elle était petite? Est-ce que c'est un rapport à ce que vous vivez ou pas du tout justement?
Moi mon beau-père m'avait fait une cabane dans les bois.
Ouais.
Donc après ça n'a rien à voir parce que c'est mon père, il habitait dans un habitat mobile, il habitait en tipi. Enfin, donc j'ai été pas mal dans ce genre d'habitat, et après j'avais des amis qui avaient des gros camions, des gros poids lourds en fait, dans lesquels j'ai voyagé, habité, et donc ça m'a fait rêver.
Ok.
Voilà, ça a commencé comme
plus
ça.
Plus tout ça que la cabane en fait.
Plus l'habitat mobile en fait, de bouger, ouais. Mmh. Ouais, parce que moi après j'étais dans le cirque, donc c'était quand même plutôt dans une idée de déplacement.
Aussi également, c'était peut-être plus des cabanes de pêche quand on était petit, on grandit dans le Tarn, on avait vraiment beaucoup les cabanes de pêche qu'on construisait juste pour que les construire, c'était pas vraiment aller à la pêche, enfin c'était passer les après-midi comme je pense beaucoup d'enfants du Tarn. Et après également, moi ça a été beaucoup sur le mouvement, le fait de pouvoir se déplacer, d'avoir voilà, la cabane, tu l'as démontée d'un endroit, tu l'as remontée dans un autre arbre parce que, ou un autre endroit de la rivière. Et c'est cette partie-là, ouais, qui était vraiment importante, le fait de pouvoir déplacer ces petites cabanes.
Moi, j'ai souvenir d'une cabane qu'on avait fait dans le Tarn, pareil. Et moi, quand j'étais dans l'arbre, mon frère s'amusait à brûler la paille par terre et sauter dessus pour l'éteindre, jusqu'au moment où ça s'est pas éteint. Du coup, moi, j'étais dans l'arbre pendant que la cabane brûlait. C'est un souvenir de cabane. Hein. Mais du coup, j'adore les cabanes, quand même. Peut-être mon frère un peu moins, il faudra lui poser la question.
Lundi 8 mars 2021, quelque part dans le Tarn, en bord de route communale, un panneau suspendu à une corde entre deux arbres signale une propriété privée. Autour, une forêt. Plus loin, au bout d'un chemin, un habitat visiblement autoconstruit à base de matériaux de récupération. Nous avons rendez-vous avec des membres de l'association ALEM pour habitants de logements éphémères ou mobiles.
Définir donc l'habitat mobile, on va vraiment s'en servir là, depuis quelques années. Ça va vraiment être l'aménagement des vannes, des camions. Ça va être souvent un habitat sur roues qui, justement, va être les caravanes qui vont être déplaçables très facilement. Contrairement à l'habitat, maintenant on aime bien rassembler l'habitat réversible, parler d'habitat réversible, c'est-à-dire donc qui comprend également l'habitat mobile, mais qui va comprendre également les yourtes, les cabanes, certaines cabanes, les tiny houses, les tipis,
tout ce qui a besoin de fondation.
Tout ce qui n'a pas besoin de fondation, exactement. Et donc voilà, ça, maintenant on aime beaucoup parler de ce concept d'habitat réversible.
Et alors du coup, est-ce que éphémère vous l'acceptez, ou justement vous voudriez que ça soit moins éphémère que ce qu'on passe?
Tout à fait, c'est bien ça, exactement, c'est vrai que c'est l'une des... C'est
l'un des axes de l'association.
L'un des axes, voilà, on veut justement réussir à faire accepter l'idée que ces habitats réversibles ou éphémères, comme tu l'as bien dit, puissent être définis comme l'habitat permanent de leurs utilisateurs, comme c'est souvent mentionné dans certains textes de loi qui défendent aussi cette façon d'habiter, qui sont bien trop rares encore. Mais justement, voilà, que ça soit une manière d'habiter à long terme et démontable au terme d'une vie peut-être, ou d'une famille.
Je voudrais rajouter quelque chose, que ce soit pas éphémère parce que la loi elle décide, mais parce qu'on la choisit si c'est éphémère, quoi. Voilà, parce que finalement souvent c'est la loi qui nous met des bâtons dans les roues pour pouvoir que ce soit un habitat plus permanent.
Petit détour par les pieds sur terre sur France Culture, émission du 14 décembre 2020.
La cabane, elle ressemble à une petite maison de fée au fond des bois, avec un gros arbre qui supporte à 7 mètres de haut une plateforme assez large sur laquelle une petite bicoque a été construite qui fluctue au vent, très organique. Et surtout l'idée, c'est qu'elle s'intègre dans l'arbre sans le perturber, enfin en essayant au minimum de le perturber, il n'y a rien enfoncé dedans. Elle est autonome. Elle reçoit l'eau du ciel qu'on récupère pour essentiellement laver, essentiellement. Et on en filtre une bonne partie pour la boire. Pour l'énergie de la lumière, c'est le soleil avec des panneaux solaires. Il n'y a pas de frigo, il n'y a rien d'électrique, rien d'autre. Je n'ai pas abattu un seul arbre encore depuis que je suis là pour me chauffer. Je n'ai fait qu'utiliser sur la parcelle le bois qui était mort et tombé. Voilà. Quand la mairie a changé, c'est en 2014 avec Alain Galfion, le maire de l'époque, qui me demande de régulariser une situation de fait en posant un permis. Parce que j'habite là depuis 3 ans, et puis que je dérange pas, et puis qu'elle est belle, et puis qu'il n'y a pas de souci, il faut trouver une solution. Naïvement, je réponds à cette sollicitation et je pose un permis de construire qu'il me refuse direct. Et c'est le jour où je vais le voir pour lui demander pourquoi, enfin, que je comprends que c'était une perche en fait. On m'avait tendu un piège, maintenant que j'avais mordu l'hameçon, tu pouvais rentrer chez toi, la justice ferait son affaire. Et donc j'ai compris que c'était la guerre. Et là, j'ai été effondré, moi, parce que je comprenais pas la situation. Je dérange personne, je suis là depuis assez longtemps, ils savent que. Voilà. Ben non. Et suite au refus du permis de construire, j'ai donc le devoir de remettre en état le terrain. J'ai refusé de le faire. La mairie a porté plainte devant le procureur pour construction sans permis de construire. Il y a toute une bataille juridique qui s'est mise en place et qui est partie. Première instance où j'ai gain de cause, parce que la juge estime qu'on ne peut pas me foutre dehors comme ça et puis que je ne dérange pas, enfin voilà. Ils font appel, ils gagnent en appel. Je demande à aller en cassation et je perds en cassation. J'ai été condamné à détruire la cabane avec 100 euros par jour de retard pendant 6 mois. Le temps de passer en cassation, les 6 mois étaient déjà passés, donc je dois 18 000 euros plus la destruction de ma cabane à la justice. Voilà, ça c'est ce que je dois faire actuellement. Quand la cassation a rendu son verdict, c'est ce que j'ai pris sur le dos. Donc depuis, on a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour une atteinte grave au respect de la vie privée et du domicile. Ce que la mairie me reproche a priori, c'est un, d'être un étranger, pas du coin, hein, donc rien à faire ici. Deux, essentiellement, d'avoir construit sans leur demander un permis de construire ma cabane sur mon terrain. Et a priori de dénaturer Natura 2000. Mais toute la commune est concernée. Et idem pour la zone industrielle et artisanale qu'il y a dans le village, qui fait déjà une belle superficie et qui compte étendre de 4 hectares sur la forêt Natura 2000. Là, c'est béton, bitume, zone industrielle. Et à moi, on me reproche d'être sur mon terrain et d'avoir fait une petite 4 planches entre un arbre, autour d'un arbre pour y vivre et que je dénaturerais le milieu. Alors entre ça et une zone industrielle ou artisanale, ça n'a strictement rien à voir. L'argument est aberrant. Il suffit de venir vivre ici pour voir. On est complètement intégré. Enfin, je veux dire, on ne perturbe pas du tout le milieu. La faune continue à vivre, les plantes aussi. On ne rejette rien. On est relié à rien. C'est juste la forêt qui vit. Vis-à-vis d'une destruction possible, je la conçois complètement. Et même, je l'admets. Si la loi m'y oblige, je le ferai, pas de problème. Je plierai les chines. Mais au fond, je serai complètement très déçu, évidemment. Déçu par la loi, déçu par la société humaine, enfin voilà, je serai un peu dépité. Mais oui, je le ferai. Si on me demande de le faire, et puis qu'il faut le faire, je le ferai.
Oh,
La loi considère les micro-maisons comme des habitats mobiles à l'instar des vannes ou des roulottes depuis 1969. Et depuis, la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, dit loi Allur, votée en 2014, le code de l'urbanisme autorise l'installation de n'importe quel type d'habitat sur un terrain constructible pour 3 mois maximum. Au-delà, il devient obligatoire d'obtenir l'accord de la mairie sous peine de s'exposer à une amende. Ce texte avait aussi pour ambition de répondre aux problèmes d'accès au terrain en créant une dérogation pour des zones agricoles ou forestières non constructibles, les fameux STECAL. Désormais, tout propriétaire ou locataire d'habitat mobile ou d'habitat facilement et rapidement démontable, entre guillemets, peut demander à la commune de s'installer sur ces espaces sous réserve que cela soit sa résidence principale. En outre, la loi définit un cahier des charges garantissant sa sécurité, sa salubrité et son bon raccordement au réseau sanitaire que les propriétaires doivent respecter. Mais même avec la loi derrière eux, ces derniers doivent faire face à l'opposition d'acteurs locaux très influents comme les chasseurs ou les agriculteurs. À ces conflits d'usage se rajoutent des contraintes administratives et de coûts de révision du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. On retourne auprès d'Ondine, Romain et Mathieu qui nous reçoivent pour discuter de tout ça. C'était le lundi 8 mars 2021.
Qui suis en procédure, je suis encore en fait. Je suis en procédure parce que j'ai deux habitats mobiles, donc deux bus, et en fait j'ai pas le droit, à partir du moment où c'est un terrain agricole, j'ai pas le droit d'habiter sur mon terrain, alors que c'est un terrain que j'ai acheté aussi. Et ben on me reproche d'avoir de vivre en permanence dedans, en fait, et d'avoir relié les deux bus. En fait, et donc ce qu'ils me demandent, c'est exactement est-ce que sont mobiles, donc les papiers d'assurance, la carte grise. Là, ils me demandent le contrôle technique. Ouais. Donc des choses pour voir vraiment qu'ils soient vraiment mobiles et qu'ils puissent, est-ce qu'ils peuvent se déplacer rapidement. Donc est-ce qu'on peut les enlever en fait, et est-ce que vous pouvez partir? Enfin, en gros, c'est au bout de, voilà, parce que normalement au bout de 3 mois, si je reste là, j'ai pas le droit de rester plus de 3 mois. Donc à partir du moment où je reste plus de 3 mois, il me faut une taxe d'aménagement. Donc ça rentre dans une autre procédure, mais c'est juste que on peut pas se demander ça en général sur un terrain agricole, quoi. Il faut le régulariser en fait, c'est-à-dire que soit demander un STECAL, donc on en reparlera un peu mieux, mais donc à la mairie, donc il faut que la mairie soit d'accord, il faut que la préfecture soit d'accord, il faut que la DDT soit d'accord. En fait, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient d'accord pour ça, puisque le PLUI est en train de se refaire sur notre commune, et ben de pouvoir intégrer une demande de STECAL, ce qui ne va pas être forcément autorisé, j'en sais rien. Donc après voilà, donc là je suis en attente de voir, mais voilà, ce qui m'est reproché, c'est d'habiter sur un terrain agricole en fait, voilà.
Donc là je vais utiliser la casquette ALEM, donc ouais. On va donc l'association des habitants d'habitat léger et mobile. Qui aide justement, qui accompagne les habitants dans cette installation et souvent en tout cas dans les procédures juridiques qui vont devoir, qui se font contre les habitants justement, cette judiciarisation.
La stigmatisation.
Ouais, mais non, surtout donc la STECAL qu'abordait Ondine, c'est une manière, c'est ce qu'on appelle plus communément la pastille, et qui était une manière de pouvoir, hors plan d'imposition des sols, ou en tout cas dans un PLUI, on va dire hors zone constructible, installer des habitats ou toute autre chose qui n'est pas destination agricole. On va utiliser par exemple la STECAL pour des champs d'éoliennes. Ouais. Installer un champ d'éoliennes, on va demander, c'est une pastille, c'est une, donc la STECAL c'est un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, qui va justement pouvoir définir très précisément qu'est-ce qui va être installé sur cette zone agricole. C'est une solution tampon, ça a été une grande avancée, mais ça reste une solution un petit peu tampon pour l'instant. Ça a été une solution assez faible, assez éparpillée. C'est vraiment traité au cas par cas, chaque installation. Traité au cas par cas. Mais voilà, nous on cherche maintenant des possibilités départementales, territoriales, vraiment plus fortes, et qui permettraient un meilleur ensemble sur ces habitats légers. Et que ce soit pas justement peut-être cette peur de... cette peur de la judiciarisation, pour revenir à ça, parler, c'est la précarisation est née de là. Nous, on a été contactés à Paralem par beaucoup de gens, on a beaucoup de procédures, de personnes en procédure qui risquent du jour au lendemain de se faire virer, qui ont très peur de ça, et qui du coup les met dans une inconsistance permanente, c'est dans un stress, un état d'être et un état de stress, et surtout pour des personnes très vulnérables. On a été contactés, enfin voilà, je pourrais citer plusieurs exemples, mais vraiment des gens très vulnérables qui nous contactent et qui sont face aux gendarmes, face à des peurs d'amende et d'expulsion directe. Donc voilà, mais Alem en tout cas a vraiment vocation à se battre contre ça afin de trouver des lois et des règles ensemble.
Moi, je dirais que les gendarmes en général, ils sont plutôt aussi là pour faire peur, quoi. Ils essayent absolument de dire vous allez dégager avant même de rentrer dans une procédure forcément, enfin, ou un procès ou des papiers qui vont être demandés à la préfète ou des choses comme ça. Donc c'est assez désagréable en tout cas de les recevoir. Et souvent ils rentrent dans un terrain qu'ils connaissent pas, et à partir du moment où c'est pas marqué terrain privé, ils rentrent et ils demandent rien, de savoir si ça dérange ou si ça dérange pas. Et ils disent qu'est-ce que vous faites, vous habitez là, vous avez pas le droit. C'est très intrusif et très désagréable de recevoir les gendarmes comme ça, à l'improviste. Et même une fois qu'ils ont les numéros de téléphone, tout ça, qu'ils pourraient décider. Moi, maintenant, après, je leur ai demandé de vraiment me téléphoner avant d'avoir s'ils avaient des questions.
Tes droits de...
Et ouais, c'est très désagréable, mais c'est juste qu'en fait, si tu leur dis pas, et finalement, ils continuent à chercher à faire peur et à dire ben, « Non, vous n'avez pas le droit de rester là, vous devez partir. » Alors qu'en fait, moi, j'ai essayé de régulariser ma situation. J'ai quand même acheté le terrain. Ce sont des habitats qui sont à moi. Et en fait, on a l'impression encore d'être des bandits, quoi.
Est-ce que c'est dû au fait que l'imagination qu'on se fait d'une propriété privée, c'est qu'il y a une clôture autour et que tu n'en as pas forcément ?
Peut-être, et puis une maison en dur avec du béton, et que là, c'est pas le cas. Ce sont des habitats... Voilà, des bus, il y en a d'autres, c'est des yourtes, il y en a d'autres, c'est pas encore très reconnu, et ça a toujours été stigmatisé depuis longtemps, les gens du voyage, hein, ou les personnes qui sont mobiles, ou les personnes qui sont vulnérables, comme il disait, mais en fait, ça nous met dans une vulnérabilité encore plus grande, alors qu'en fait, on cherche plutôt à être tranquille aussi, comme tout le monde, finalement. Je veux dire, on n'a pas envie d'être embêté, personne n'a envie d'être embêté. Et moi, pour ça que je trouve ça super intéressant, ce qu'ils font à l'EM, c'est que on a envie de faire bouger les lois, en fait. Et c'est pour pouvoir... Parce qu'on n'a pas envie d'être hors la loi. C'est pas notre idée de faire ça. On a envie de pouvoir être... Pouvoir payer les taxes s'il faut payer les taxes. C'est pas un choix. C'est juste qu'on sait que si on se révèle, eh ben, on est hors norme. Donc, on n'est pas dans les contextes de loi qui sont... On n'a pas de loi qui nous régisse. On n'a pas de loi qui décide comment on pourrait s'installer vraiment avec ce genre d'habitat. Il y a le stécal, mais c'est encore, ouais, c'est un peu temporaire. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc tranquille, quoi. Enfin, parce qu'on a le droit de mettre un bus ou une yourte, mais une fois qu'on a décidé la yourte, on peut pas rajouter une autre sur. Enfin, à chaque fois redemander une autorisation, changer un plan de PLUI pour une mairie, ça leur coûte beaucoup de sous pour pouvoir intégrer un stécal, donc c'est pas si facile que ça, en fait. C'est pas non plus, on va demander à la mairie, s'ils sont d'accord, c'est ok. Non, c'est beaucoup, beaucoup de sous en général. Donc en général, les mairies, ils refusent, en fait. C'est pas... Bon, voilà. Du coup, c'est pas si simple. C'est pas encore une solution, même si ça nous aide, et c'est pour l'instant la solution.
Trois petits loups qui n'étaient pas bien riches. Trois loups sans le sou qui se caillait les miches. Un grand cochon les aperçut de loin. Un grand cochon qui se frottait les mains. Messieurs, dames, les loups, il fait bien trop froid. Messieurs, dames, les loups, il vous faut un toit. Écoutez l'histoire, je vais vous raconter. Vous pouvez me croire, je suis votre banquier. Pour avoir un toit, il vous faut une maison en béton, sinon ça compte pas. Pour avoir du béton, il vous faut plein d'argent. Pour avoir plein d'argent, il vous faut un crédit. Pour avoir un crédit, il vous faut un emploi. Pour avoir un emploi, il vous faut un patron. Pour avoir un patron, il faut être gentil et toujours bien dire oui, il faut lui obéir, sinon il vous vire, et là plus rien du tout. Mais si messieurs, dames, les loups, c'est dur mais c'est la vie.
Voici ce que répondit le premier petit loup au grand cochon.
Mon grand cochon, tout ça c'est pas une vie. Moi je suis pas un mouton, je dis pas toujours oui. Pour avoir une maison, j'ai une meilleure idée. Plutôt dans du béton, je vais habiter léger. Petite cabane, jolie comme une chanson, ou une caravane en route vers l'horizon. La rondeur d'une yourte posée dans un grand pré, ou vivre au bord de l'ourte en camping toute l'année. La paille, le bois, la pierre, c'est déjà bien assez. Ou même un conteneur, j'en ferai mon foyer. Je ferai ma tanière sans rien endommager. Je vis près de la terre et pas la bétonner. Tu m'appelles Baraki, j'y tends ou va du pied, moi je danse la vie car j'habite le cœur léger.
Mais le grand cochon ricanait avec ses amis les vautours.
Mon petit louveteau, c'est bien beau de rêver, mais t'as pas vu le taureau qui a déjà tout dévasté. Ton petit coin de paradis, les vautours l'ont acheté. Ben ouais, on investit l'argent de vos loyers.
La louve n'y tenait plus.
Oula pétard, ça y est, je suis en rogne. Regardez les charognards, la revanche de la charogne. Fini de vous supplier, je me sers comme une pirate. Bye 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 et loyer, bonjour la vie en squat. Un pied de biche, un tour de crochet. Y'a pas que les riches, ton droit un palais. Le mien sera rempli de gens un peu barges qui viendront voir si leur vie s'écrit mieux dans les marges. La cave au pacon, la rage et de la joie. Les bras en cocon, une teuf sur le toit. Les mômes du quartier et tous les parias chanteront la liberté que les proprios n'auront pas.
Excédé, le grand cochon fit appel au chien de garde.
Sale bande de loups voyous, mais qu'est-ce que vous croyez? Ici, c'est pas chez vous, propriété privée. Si je la laisse pourrir, c'est mon droit légitime. Les chiens, à vous d'agir. Virez-moi cette vermine.
Et c'est alors que le troisième petit loup s'adressa à ses amis.
Nous revoilà dehors, c'est le marteau et l'enclume. Soit on engraisse les porcs, soit les vautours nous plument. Seul on ne peut rien, notre force c'est la meute. Prochaine morsure de chien, la forêt en émeute. À chaque expulsion, on sera des dizaines. Barricade d'hérissons, brigade de musaraignes, bloc noir de corbeaux et fiante de hibou, embuscade de blaireaux. Aou, aou, aou. Et c'est pas fini, on passe à l'attaque. Pour chaque sans-abri, on prendra une baraque. Maison de campagne, résidence secondaire, place à la castagne, expropriation populaire.
Merci à Steph K. C'était Trois Petits Loups, extrait de l'album De Rage et de Joie, à commander via le courriel stefk@riseup.net. On retourne auprès d'Ondine, Romain et Mathieu qui nous reçoivent pour discuter de l'association Alem. C'était le lundi 8 mars 2021.
Du coup, est-ce que une des premières missions qu'Alem s'est posée, c'est de bien connaître les lois et de voir qu'est-ce qu'elles voulaient dire vraiment?
Ouais, de connaître les lois. Il y a ce qu'on propose aussi au niveau local ici, c'est les aïkido juridiques, c'est-à-dire se servir de la juridiction mise en place pour se défendre avec. Parce que c'est vrai que il y a des possibilités, comme on l'a évoqué avec l'Estécal. Il y a la jurisprudence, il y a un gros travail de suivre les procédures en cours pour se servir des verdicts, pour des jurisprudences en faveur des cas d'habitat léger. Lire, écouter. Et du coup, il y a quand même, en fait, au sein d'Alem, je crois que c'est créé en 2002 ou 2005, je sais plus. Ça, il y a quand même un bagage assez fort avec Alem. Il y a le droit au logement, le DAL, qui quand même fait un gros travail plus sur le côté, citadin, en ville, et plus sur le logement locatif. Il y a la Fondation Abbé Pierre qui travaille énormément sur les gens qui sont dans le besoin. Donc il y a quand même beaucoup de ressources. Notamment l'état du mal logement de la Fondation Abbé Pierre. Plein d'écrits qui ont été faits de l'ONU. Il y a des rapports sur l'ONU qui sont contre la financiarisation du logement et qui rappellent que le logement c'est un droit fondamental, quoi. C'est pas un bien mercantile. Et après on a quelques personnes dans l'association Alem France qui sont hyper compétents et plus compétents que beaucoup d'urbanistes en la question, quoi, parce que c'est quand même très spécifique l'habitat léger. Nous on se forme, et aussi via les personnes qui sont juristes au sein de l'association, on propose des formations aux élus et aux personnes qui ont des procédures et qui veulent en savoir plus sur l'habitat léger. Du coup, parce que souvent les élus, ils se rendent compte que l'habitat léger, c'est une solution pour dynamiser les campagnes, que c'est vachement intéressant au niveau local pour les communes, pour créer de l'emploi aussi dans le milieu rural, et ils n'ont aucune solution. C'est-à-dire, on ne les forme pas, voire la dernière fois, il y avait une formation proposée par la DDT, c'était sur la police de l'urbanisme, c'était au contraire pour... Parce que certaines personnes disent que c'est un problème, l'habitat léger. Et donc, on propose des formations aux élus pour qu'ils aient des éléments de réponse. Parce que souvent, les personnes qui sont en habitat léger se retournent vers les mairies en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a plein d'élus, de communes qui ne connaissent pas la loi Allure et les STECAL qu'on évoquait tout à l'heure.
Est-ce que l'habitat léger, ou mobile, ou les deux, c'est une façon de re-questionner la propriété privée ou pas forcément? Et aussi, est-ce que c'est une façon d'accéder à la propriété privée pour des gens justement qui n'ont pas beaucoup de sous ou qui ne cherchent pas à en avoir beaucoup?
Du coup, c'est vrai qu'il y a, on peut voir dans l'état du mal logement de la Fondation Abbé Pierre, on estime à 8 millions de personnes en France touchées par la crise du logement. Donc c'est une personne sur 10, même plus, je crois. C'est pas mal. Et du coup, c'est vrai que l'habitat léger permet à moindre coût, en répondant à la crise écologique, à se réinstaller dans les zones rurales qui ont besoin d'être dynamisées. Clairement, à moindre coût, ça veut dire qu'on permet une certaine mixité aussi. C'est une possibilité donc à des gens moins aisés, plus jeunes, et des catégories sociales les plus en galère, ça leur permet de s'installer. Ouais. Il y a, pour l'aspect financier, ouais, énormément. C'est clair que... Parce que souvent, c'est... Après, vient la question de, est-ce que c'est choisi ou pas? C'est vrai que nous, on a souvent des profils auxquels on est habitué à ces formes de cabanes, de bus. Est-ce que c'est choisi? Je suis pas sociologue, j'aurais du mal à le définir. Mais en tout cas, ça nous convient.
Alors, en complément, je pense qu'on peut aborder également le fait du manque criant d'offres locatives qu'on va avoir dans nos départements. Nous, au début, avant d'avoir réussi à s'installer dans le Cordé, on a eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver des locations, des offres de location à prix raisonnable, c'est-à-dire étant justement quelqu'un qui n'avait pas énormément d'argent et des salaires classiques au SMIC, très difficile d'acheter, donc très difficile d'obtenir un emprunt car souvent il faut être locataire ou avoir des gains, enfin c'est très compliqué, donc c'est très difficile, voilà, impossible de ce côté-là. Mais surtout, voilà, la location n'existe pas dans nos campagnes, peut-être en partie à cause du tourisme. On a beaucoup de logements qui sont très très beaux, mais qui sont loués que l'été pour les touristes du Tarn. Après, bon, c'est un bien également, hein, mais du coup, on manque beaucoup de logements à la location, ce qui est pour beaucoup une difficulté insurmontable. Et donc, la solution pécuniaire la plus simple, enfin la solution financièrement viable, va être justement d'emprunter un terrain à quelqu'un qui a pu l'acheter, un agriculteur, de s'installer sur une des parcelles inutilisées, dans un bois ou quelque part, et de pouvoir s'acheter pour souvent une bouchée de pain, mais voilà, pour les plus fortunés d'entre nous, ça va être pour entre 10 000 ou 20 000 euros pour acheter la dernière tiny house sortie magnifique, et d'autres faire de l'autoconstruction dans un habitat mobile, ou de l'autoconstruction d'une yourte, comme de nombreuses explications permettent d'expliquer comment le faire. À base de récupération, donc souvent, voilà, c'est des habitats à impact écologique extraordinaire, parce qu'ils ont été fabriqués avec beaucoup de matériaux de récupération, et au moment de repartir, ils pourront partir directement, ils pourront être recyclés, compostés pour la plupart, moins recyclés, et ils se retransformeront en autre chose. Donc clairement, c'est une solution pour l'accès à l'habitat.
C'est aussi un choix, des fois, d'habiter dans ce genre d'habitat, parce que moi, par exemple, en tout cas, je faisais un métier mobile, donc je suis partie avec mes habitats, à chaque fois je bougeais avec cet habitat, je vivais dedans, donc quand je revenais, forcément, je n'allais pas acheter ou louer, enfin, c'était normal, donc quand je me suis installée, j'ai gardé mon habitat, donc ça ne me paraissait pas de louer, j'étais déjà bien dans mon lieu, donc voilà, c'est pas, des fois, c'est pas forcément... C'est aussi une histoire de sous, souvent, parce que de toute façon, on ne peut pas s'installer et dire bah, « Tiens, je vais acheter une baraque à 200 000 euros, là, ce sera super, en plus d'avoir mon logement mobile. » Non, on fait avec ce qu'on a aussi, finalement. Mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai acheté en me disant « Peut-être ça me sécurisera plus, mais finalement, ce n'est pas forcément besoin. » Mais dans nos sociétés, ça demande un peu quand même, ça pousse un peu, en tout cas, à avoir son lieu pour être sûr de ne pas être jarté.
La propriété est sacrée.
Ouais, il y a un peu de ça, beaucoup en France en tout cas, et je pense dans beaucoup de pays européens ou voilà, occidentaux. La propriété, et puis mettre des murs autour, ou des haies, ou des... Et dès que c'est pas défini, en tout cas par exemple, ben, s'il n'y a pas un fil avec marqué terrain privé, ben, les gendarmes ils se permettent de pouvoir entrer, alors qu'en fait, l'idée c'est de dire, ben non, bienvenue aussi finalement.
Ouais, juste rajouter comme disait Mathieu, c'est que dans le cordé, ben c'est des appels téléphoniques quotidiens dans les mairies de gens qui cherchent en fait. Il y a un déficit et un vrai problème de logement. Je sais pas si les gens peuvent s'en rendre compte par ailleurs, mais c'est un vrai problème quoi. Et puis voilà. Et peut-être qu'il y a l'habitat, il y a aussi le mode de vie. Je sais pas si on y reviendra un temps, parce que c'est un mode de vie qui ben, permet d'être beaucoup plus écologique, enfin sur les consommations en eau, on pourrait parler des toilettes sèches, des consommations d'électricité, c'est un peu le, sans prétention, mais quand même, c'est un peu l'habitat du futur, quoi. Il y en a qui disent c'est passéiste, c'est revenir en arrière, enfin, je dis comme disait Greta Thunberg, là, ou OK Boomer, mais ouais, on verra qui a raison à la fin, mais il faut faire face, quoi. Là, ben, tout, et même il y a l'artificialisation des sols, on n'artificialise pas les sols, on est économe dans nos modes de vie, c'est le futur.
Moi, j'avais été étonnée justement dans la commune ici, par exemple, c'est une toute petite commune de 300 habitants, mais d'entendre qu'il y avait 40 appels par semaine. 40, je trouve ça énorme en fait. Parce que enfin, moi, je me suis jamais posé la question de combien il y a d'appels pour demander une location. Et quand il y avait. Après, l'achat aussi, il y avait pas mal de demandes. Je sais plus, c'était moins, mais c'était quand même assez nombreux finalement. Ouais. Et il n'y a pas de. Comme il n'y a pas de proposition, ils rejettent quoi. Ils disent bah non.
Et la situation sanitaire qui aggrave. Parce que les gens veulent partir de la ville et les plus, c'est souvent les plus démunis. Enfin, c'est. Ça. Le facteur sanitaire, la crise du Covid, je parle, aggrave. Ce besoin de logement.
Vous écoutez une entrevue avec Ondine, Romain et Mathieu, membres de l'association ALEM pour Habitat de logement éphémère ou mobile. Une entrevue enregistrée le lundi 8 mars 2021.
Je viens sur la partie collective. Peut-être on pourrait parler aussi de pourquoi de l'association et d'une fédération aussi. Mais déjà, le collectif, est-ce que Est-ce que, comment vous voyez le chose, peut-être de l'extérieur, les gens se disent c'est des campements qui vont grossir avec autour d'une sorte de foyer. Les gens s'imaginent peut-être, voilà, comme on imagine une compagnie de cirque qui va avec des roulottes qui vont. Est-ce que justement tout ça c'est image d'Épinal, ou est-ce qu'il y a vraiment une vie collective, où il y a des endroits où il y a de l'habitat collectif en plus d'être mobile et léger, et comment vous fédérez quand vous êtes un peu isolé justement aussi?
Le fait de se fédérer a justement amené une force à la plupart des gens qui habitaient en habitat léger isolé. Le fait de prendre contact avec Alem ou avec d'autres associations a pu justement les aider à se sentir moins seuls, et justement à pouvoir déployer un petit peu les ailes et venir également militer avec nous pour ce droit d'habiter autrement. Et par rapport au collectif, une réalité qui se fait souvent ici, en tout cas dans le Tarn, c'est qu'on va avoir beaucoup un groupement de, donc peut-être par rapport à l'argent, mais un groupement de 8-10 personnes, peut-être plus, peut-être moins, qui vont avoir tous ensemble la possibilité, les moyens financiers d'acheter un gros corps de ferme. Mais en revanche, on va être loin de cette image d'Épinal de ces communautés hippies qu'on avait il y a 40 ou 50 ans, et justement qui étaient beaucoup de vie en commun, tout partagé. Et donc maintenant l'habitat léger va offrir justement cette possibilité d'avoir chacun un habitat séparé, avoir chacun sa vie privée, et d'avoir le gros corps de ferme qui sert d'espace commun avec une grande cuisine, des ateliers de transformation, parce que souvent c'est des projets collectifs qui vont s'accompagner de maraîchage, de maraîchage, d'élevage, tout ce que les gens peuvent avoir envie de cirque, enfin voilà, énormément de choses d'artisanat. Et donc justement peut-être que l'habitat réversible permet cette fluctuation du nombre d'habitants sur un lieu, tout en ne dénaturant pas le lieu en question.
Ah ben nous on est pour, je pense que au nom du groupe, on est pour limiter cette image d'Épinal. On demande des droits, mais on aura des devoirs avec, et il n'y a pas de souci quoi. Justement, nous on demande qu'une législation. Et bien qu'on soit fixé à des devoirs, avec grand plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on peut même pas payer des impôts. Donc se retrouver dans un truc où on peut pas payer des impôts, on n'a pas le droit à être citoyen comme un autre.
Les gens nous le reprochent, le fait. Ils disent, vous vivez dans ces habitats, tout ça, c'est pour pas payer d'impôts, etc. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'étais installé en Yourte, je suis allé voir la mairie, je leur ai demandé, comment je peux faire pour payer des impôts? Moi aussi, je veux pouvoir en payer. Est-ce que je peux avoir un conteneur poubelle? Ne serait-ce que ça? Vous rendez compte la précarisation qu'on a des fois, tes poubelles, faut les emmener au village d'à côté parce que ton village à toi, il a pas des points d'apport volontaires, on appelle ça les PAV, où on peut poser ses poubelles, enfin des choses, et on n'a pas le droit de payer des impôts, alors que moi qui n'avais pas encore d'enfants, je me disais peut-être que quand j'aurai des enfants, ça me paraît juste dès maintenant de payer pour l'école, de payer pour les voies de communes, et voilà, mais pour les mairies c'était impossible de nous en faire payer, même si on en faisait la demande. Et c'est encore le cas.
Non, dans le cochon y a pas de bubon. Je te parle nos maisons et nos coups bonbons. Pas d'autre option, travailler dur, se saigner à fond et s'entourer de quatre murs. Fini les crocs, fini les coups. Quand tire des mots, c'est sous du loup. Le temps fait défaut, l'argent le faux. Bon, 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 j'en prends pour 4 générations.
Bonjour, monsieur cochon. On le fait pour vous aider. Il vous faut de la monnaie, je peux vous en procurer 10% d'intérêt. Je sais c'est élevé, mais qui d'autre que Wallbang traiterait à un cochonnet?
Hey!
Le v'là endetté, j'ai trouvé la parade, je le tiens par le porte-monnaie.
L'heure de ma vengeance va bientôt sonner.
Yo, chalet, vous le loup fait pas sa loi, autonomie, hey, autoconstruit, hey, écologie, hey, respect du choix de vie.
Fini la marcherie, apologie, apologie,
les signes de main, on se casse, on laisse un bâtard.
Ça se passe, t'en perds là, même au sang, est-ce que j'ai le choix? Je vais passer voir les frérots et leur en toucher deux mots.
Bala baba 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 et la misère. Bala baba 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 et le loup galère. La vie d'un qui me tue, la femme qui me plaît. À toi quel qu'il soit, bienvenue chez toi mon frère.
Je suis sceptique, c'est pas de la brise.
C'est la terre du bois de la maille, 100% local.
Bref, rien de bon, en terre d'isolation.
Feu de chambroulaine, ma maison est saine.
Chaque hiver, retour à la glacière.
N'importe quoi, j'ai un bon poil à bois.
Ma tuée et moi, mais où est-ce qu'on fait ta part?
Tu connais pas ton essai, je
crois. Chalet, vous êtes au niveau.
Caravane, cabane, van, mobilo.
Et la vita, c'est notre droit.
Léger, c'est notre choix.
Chez nous, le loup fait pas sa loi.
Autonomie, hey, autoconstruit,
hey, écologie, hey,
respect.
enfoirés de cochons, ils ont trouvé la solution. Vite, une autre astuce. Messieurs les cochons, que faites-vous là? Vous avez un permis? Dites-moi de quel droit vous avez construit ça? La loi ne dit rien sur votre cas, alors dégagez-moi de là.
Le loup, encore une fois toi, laisse béton le tomber. Là, ton système grégaire nous rend bien amer. Laisse donc faire les rois du camping vert. On est des milliers, c'est pas prêt de s'arrêter. Moi et mes porcelets, on veut pas être assisté. Un brin de liberté, c'est tout ce qu'on a demandé. Allez, on n'est pas des vaches, allez.
On est des cochons, on est des cochons. On est des cochons, on a construit nos maisons.
Derrière costume, méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habitats plus, on en vient dans ta boue.
On est des cochons, on est des cochons. On est des cochons, on a construit nos maisons.
Derrière costume, méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habitats plus, on en vient dans ta boue.
Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous.
Donc en plus d'associations, il y a d'autres strates.
Tout à fait, il y a eu en création, qui est encore en création, donc la Fédération de l'habitat réversible, qui justement rejoint plusieurs causes communes. Donc on va voir l'association ALEM, donc on a suffisamment parlé pour l'instant, mais l'association ALEM ainsi que l'association Hameau Léger, qui elle défend la possibilité de pouvoir créer des hameaux, justement comme on parlait un petit peu dans le fait d'un achat groupé. Des hameaux d'habitat léger, donc qui eux ont fait un énorme travail d'accompagnement pour les villages et pour beaucoup de mairies à l'installation de hameaux légers. On a quand même, c'était un très gros acteur national maintenant, qui a créé voilà un MOOC sur l'habitat réversible, qui a créé une carte nationale de tous les lieux et de toutes les opportunités, enfin pas opportunités, mais toutes les initiatives.
Un MOOC,
j'ai bien dit un MOOC. Oui, monsieur. Un MOOC est une formation en ligne accessible de partout en France, justement à propos de la législation, un petit peu, donc qui est dans la suite du travail qu'a fait ALEM et l'association reliée également. Mais pour revenir à la fédération, on a également Désobéissance Fertile, qui est également aussi un groupement qui a fait beaucoup de travail à ce propos-là, pour justement, c'était beaucoup des urbains qui revenaient et qui reviennent à la campagne aussi, et trouver les systèmes, les manières de le faire de manière la plus correcte pour la société, en fait. C'est ça, c'est pouvoir être décent dans notre manière de nous installer. On n'est pas des voleurs, on n'est pas des bandits, comme disait Andine. Et donc cette fédération qui regroupe également des constructeurs de tiny house, des architectes, des urbanistes, des juristes, des gens qui justement essayent de travailler ensemble à la question. Et nous, on ne demande que ça maintenant, de pouvoir vraiment réfléchir tous ensemble aux différentes possibilités. Avec la DDT, notamment dans notre département, ce serait, je pense, une première des choses, et après à l'échelle nationale, évidemment.
Est-ce que pour lutter contre les préjugés qui peuvent être faits, que peuvent avoir les gens dans la tête, notamment le voisinage, est-ce que vous faites, je sais pas, des portes ouvertes, des choses comme ça, ou des repas de quartier, tout simplement, ou des choses comme ça?
C'est souvent des choses qui se font, mais on a tendance, on en parle beaucoup entre nous au sein du collectif. Ça pousse, c'est comme si l'installation en habitat réversible poussait à une forme de perfection. Il faut qu'on soit ouvert, il faut que tout soit très très beau, il faut que ça donne envie de rêver les gens. Bon, c'est souvent le cas, mais on a cette obligation de perfection et qu'on ne demande pas à quelqu'un qui va reprendre la ferme de son grand-père. Il va pas, il peut laisser ses carcasses de tracteurs ou n'importe quoi, comme voilà, n'importe qui aurait fait, mais cette obligation de. Voilà, d'être parfait et ouvert, d'impeccabilité. C'est quelque chose de dur, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement partout, c'est vrai. En tout cas, rencontrer ses voisins, nous, c'est souvent comme ça qu'on a fait les premières choses. Au début, quand on a des difficultés, eh bien, on va voir nos voisins, on va chercher du fumier pour faire le potager, on va leur donner du bois si on habite dans une forêt, on va leur donner un coup de main. Souvent, combien de fois je suis allé aider mes, mes vieux voisins parce que ils avaient un problème avec l'informatique ou qu'ils avaient une pièce de tracteur qui était embourbée et ils ont plus la force de faire certains travaux. Donc c'est un échange aussi, c'est ça redynamiser nos villages, je pense.
Il y a un exemple comme ça en fait de personnes qui se sont installées dans un village avec sur un terrain. Ils voulaient donc avoir des habitats mobiles et ils se sont dit en fait il faut qu'on aille voir le village et qu'est-ce qu'ils ont besoin comme besoin. Et ils se sont rendus compte que les personnes du village, ils ont dit ben ce qui nous a manqué c'est le loto. Il y avait un loto qui faisait vivre le village et c'était chouette et on s'y retrouvait et tout ça. Et du coup ça nous manque ce loto en fait. Et ils se sont dit ben voilà c'est pas trop notre truc mais finalement on a envie de participer à ce village. Bon, ben on va recréer ce loto. Et donc ils ont fait le loto. Et plusieurs années après, il y a eu le maire qui a changé de ils ont changé de maire et le nouveau maire a décidé que ces habitats c'était pas possible, il fallait les changer tout ça, mais tout le village était avec eux grâce à ce loto finalement aussi, donc c'était une manière d'avoir recréé du lien et de la vie dans ce village et d'avoir fait dire on n'est pas juste dans notre coin et des fois il y a l'idée des chiens ou l'idée de débordement ou de musique ou de trucs, maintenant on a envie de faire partie de la société, de vos vies, de nos vies, de faire en fait de recréer du lien et du partage en fait, donc
y compris de s'engueuler entre voisins mais légitime quoi.
Ouais voilà, de toute façon il y a toujours hein, je veux dire avec même nos amis on peut avoir des conflits, on peut c'est la vie, ça c'est le mouvement, donc c'est pas mais voilà. Donc voilà, enfin, je trouve que c'était un bel exemple de... Et moi, j'y habite depuis très longtemps dans ce village, donc en fait, les gens me connaissent, donc c'est aussi pour ça que c'est plus facile, je me sens moins... Même j'ai croisé des chasseurs qui m'ont dit « ça va là-haut, vous êtes bien, si vous avez besoin d'une douche, tout ça ». Je me suis dit « super quoi, enfin, je me sens pas... » Il y en a évidemment des voisins, il y en a des gens qui vont dire « non, regardez celle-ci là, ça va pas, comment elle vit ». Mais il y en a d'autres aussi, enfin, moi j'aime bien ne pas stigmatiser ni les uns ni les autres, du coup, de se dire « non, on peut s'entraider en fait tous ». Enfin, moi, c'est mon... Mais du coup, voilà. Je trouve que faire du lien avec le village, c'est important, ouais. Pour pas qu'ils aient l'impression qu'on est complètement des extraterrestres. Parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils, un peu. On a envie d'être bien dans un village.
Et puis là, on est ici. Je trouve que cette maison, elle est plus vivable, presque. Enfin, moi, je trouve ça presque plus vivable que ma maison en location, là, pour l'instant. On a la vue sur la vallée qui descend, les arbres qui sont directement à hauteur des arbres. Il y a une douche, tout est en bois, il y a de l'eau, c'est sain et ça peut faire rêver aussi justement. Je pense que n'importe quelle personne de village qu'on fait venir ici, il dira ah ouais, ok, c'est un habitat digne. C'est souvent quelque chose, même avec le Covid, où on a eu un peu cette peur que les gens disent on fait ça, on vous empêche de vous installer comme ça, car c'est indigne pour vous et vous ne pourrez pas, c'est pour vous protéger en quelque sorte. Et justement, il faut aussi faire changer les mentalités de ce côté-là.
Souvent, moi, j'ai l'impression que ce sont des habitats insalubres. Et c'est ça qui revient même, par exemple, je ne peux pas avoir d'aide pour acheter du bois, je ne peux pas avoir d'aide pour... juste parce que ce n'est pas un habitat que je loue ou que je paye des taxes normé, quoi. Et rien que pour ça, je n'ai pas le droit d'avoir d'aide. Alors qu'en finalement, je paye aussi du bois, je paye aussi... Je n'ai pas forcément plus de sous que certains qui sont dans des habitats sociaux. Donc en fait, je ne comprends pas cette... Ce problème en fait de se dire non.
C'est l'adresse fiscale, tu as. Est-ce qu'il y a aussi souvent ce problème là qui se pose que c'est très difficile d'avoir d'avoir une boîte aux lettres, de recevoir du courrier. Souvent c'est la première chose, moi c'est dès que j'ai installé ma boîte aux lettres, la mairie qui est venue me voir, qu'est-ce que vous faites, ça va pas, tout ça, je leur dis non, c'est la boîte aux lettres de l'association, pas de problème. Mais voilà, du coup, ça nous éloigne également du courrier, donc l'adresse fiscale pour les impôts, etc., on disait. Mais ouvrir un compte en banque, on a décidé de ne plus avoir de nucléaire, ou ne plus avoir en tout cas d'électricité du réseau sur nos habitats. Du coup, on n'a pas de facture EDF, donc on n'a pas de justificatif de domicile. Exactement, c'est très difficile d'en obtenir un, et donc on rentre dans les chiffres souvent des SDF. Et à ce propos-là, j'ai une petite formule, juste une amie qui m'a souvent dit « Tu n'es pas SDF, tu es avec domicile mobile ». Et voilà, on a différentes possibilités, mais c'est vrai que c'est plein de choses stigmatisantes. Le fait de ne pas avoir de boîte aux lettres, c'est compliqué. On va au CCAS pour avoir une adresse en mairie. On n'est pas une personne comme les autres dans un village. On n'a pas le droit de recevoir notre courrier ou des colis ou des choses comme ça. C'est toujours pareil.
Des colis Amazon, tu mets.
Exactement, Amazon. Et moi, j'avais Netflix dans ma yourte, etc. Enfin, on est dans une société comme tout le monde, en fait. Enfin voilà, cette image, les images d'Épinal, elles ont bon train avec cette forme d'habiter. Il faut juste milite pour le droit d'habiter autrement. C'est pas plus différent que ça. On peut choisir notre habitat.
Avec l'association ALM, on aimerait vraiment sensibiliser toutes les personnes et donc envoyer un peu un mail massif à, mais autant aux habitants que aux citoyens, que aux maires, que aux élus, tout ça, pour un peu les sensibiliser à ce problème de l'habitat. Et donc leur dire, ben, est-ce que vous voulez pas signer un plaidoyer pour nous soutenir, en fait, et pour pouvoir avoir plus de poids, pour pouvoir changer un peu les lois par rapport à ça. Donc.
Et alors, par ailleurs, on invite, c'est un peu la campagne qu'on disait, bougeons nos élus, donc on invite chaque personne qui serait intéressée à, pour favoriser donc les ces pastilles stécales dont on parlait, qui permettent, qui reconnaissent l'habitat léger, permettent de l'installer. Et donc il faut se rendre compte que il y a une loi qui est en place et c'est difficile pour les gens de s'en saisir. Il y a c'est
de voir six endroits, de voir.
Ouais, c'est quand même difficile de s'en saisir. Du coup, nous, on se porte comme on est prêt à aider quiconque voudrait créer de l'habitat léger dans son village, et on est prêt à faire les papiers, accompagner les gens.
On est en train de faire un protocole, en fait, pour pouvoir comment le faire, quoi.
En direction des maires en premier.
En direction des maires, des élus, et de tous les habitants qui voudraient le faire. Comment aller voir vos maires et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir demander une stécale.
Et pourquoi le faire ? Parce que c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir vraiment une discussion ouverte et une commission paritaire avec justement nos DDT, avec voilà, tous nos acteurs, nos collectivités à ce propos-là. Et donc on est tout à fait ouvert à toute invitation de nos DDT, malgré le Covid. Et justement, voilà, dans le cadre de cette campagne, chacun va pouvoir aller voir justement et poser des questions pour, comme tu disais, nos constructeurs qui font les habitats légers ou d'autres. Même si on est dans un habitat en dur, on peut se dire, bah, peut-être, qu'est-ce qui m'empêcherait dans 10, 20 ans d'avoir besoin. On a beaucoup de retraités qui vivent en camping-car et qui ont exactement le même problème que nous. Même s'ils ont acheté un terrain, ils ne peuvent pas vivre dans leur camping-car à l'année sans bouger. Donc ça touche énormément de monde, et je pense que c'est une discussion et un sujet à voir maintenant pour le futur.
Et de pas attendre qu'il y ait un besoin, il y a un besoin de stécal, il y a un besoin d'habitat léger, et les mettre en place pour des gens qui veulent venir, quoi. En espérant que ça se retourne pas en... que les mairies s'en emparent pour créer du logement social en se détachant de certaines responsabilités qu'ils pourraient avoir par ailleurs sur le logement social. Ouais.
Ça devienne insalubre finalement.
Voilà.
Ouais. Aussi gentrifier certains secteurs de leur commune. Et c'est vrai que voilà, on parlait de l'accès au foncier tout à l'heure et de l'accès à l'habitat. Et c'est vrai que imposer trop de normes pourrait créer de la gentrification sur l'habitat léger. C'est chose qu'on refuse absolument. Mais voilà, à savoir, on parle beaucoup de la stécale, mais il y aurait énormément de possibilités dans les PLU et PLUI. On pourrait très bien imaginer des zones constructibles, des zones à construire et des zones pour habitat réversible. Ce serait quelque chose qui est tout à fait acceptable et abordable, plutôt que de se limiter à des petites pastilles de territoire. Pourquoi pas imaginer que tout le quart nord de mon village serait réservé, mais il y aurait une possibilité à cet endroit-là d'habitat réversible. Et ce serait, les gens pourraient en parler, et quand tu vas choisir pour acheter un terrain, bah, évidemment, ça ferait évoluer le prix des terrains, évidemment, c'est un peu souvent le problème du foncier, pourquoi il y a le constructible et pourquoi les gens se battent, c'est tout à fait logique qu'un agriculteur ou quelqu'un qui vient d'acheter une maison en terrain constructible s'est dit, oh, c'est pas normal, moi j'ai payé tant le mètre carré, eux ils viennent s'installer et ils payent pas très cher. C'est un sujet qui est important à aborder, et je pense que c'est une réalité, il faut juste pas la fuir et pouvoir en discuter ensemble avec les élus et les collectivités.
Merci à Romain, Andine et Mathieu de l'association Alem. Retrouvez Alem sur le site internet www.alemfrance.org ou contactez Alem localement via le courriel sudouestalem@gmail.com. Merci à reporter.net et son article intitulé Alpita alternatif, derrière le rêve, la réalité administrative. Merci à l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Merci enfin pour la musique à Johanna Newson pour le générique de début, The Cinematic Orchestra, Eddie Vedder et Tom York pour les habillages, Stefka et Pang pour les pauses musicales, et enfin Lassa pour le générique de fin. Lassa qui avait passé une partie de son enfance en itinérance dans le bus de ses parents entre les États-Unis et le Mexique. Alicias. Et nous n'avisons
c'est pas...